Ok, ce shiur est dédié à la refoua shlema, prompte et rapide, de Ashi Chaim David Ben Chava. Amen. Donc, on a vu la dernière fois, on a commencé à faire les cours, la série de cours sur le mariage. Donc, on avait vu on avait divisé en quatre périodes, le avant-mariage, les kiddushin, donc le fait de mettre la bague, les lectures de la ktouba, ce qu'on appelle le contrat de mariage, et les nisouin, c'est le mariage proprement dit. On était hier dans l'avant-mariage. On continue, on avait vu qu'il y avait une mitzvah pas obligatoire, plus obligatoire pour nos frères ashkenaz, c'est une koutoum chez ashkenazim, pas chez les sfaradim, mais on peut le faire aussi, de jeûner le jour du mariage, donc la veille du mariage, ou si on se marie durant le jour, alors le jour du mariage jusqu'au mariage. Est-ce que ça concerne aussi les femmes, pour ceux qui ont le minhag? Oui. Néanmoins, obligation moindre. Dont on apprend que les femmes aussi, elles ont cette notion de qu'on leur pardonne tous les péchés. Donc une des raisons pour lesquelles on jeûne, c'est parce que ce jour-là du mariage, on pardonne tous nos péchés. Les femmes aussi. La Torah nous raconte que Esav est allé prendre la fille de Ishmael. Vaylech vaykar et Mahalat bat Ishmael. Il est allé, il a pris la fille de Ishmael qui s'appelait Mahalat. Mahalat bat Ishmael. Mais en fait, le nom, c'est marqué dans la Torah que le nom de la fille d'Ishmael, ce n'était pas Mahalat, c'était Bosmat. Basmat ou Bosmat, c'était prendre, des fois c'est marqué comme ci ou comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'ici la Torah appelle Mahalat? Pour dire que vu quand elle s'est mariée, Mahaloula, Mahalou, on lui a pardonné tous ses péchés. De là, on apprend aussi que la femme, le jour du mariage, ses péchés sont pardonnés, celle fait tchouva. Donc elle aussi, il sied, il est bien qu'elle jeûne. Encore une fois, c'est un minhag ashkenaz. Ce que je dis, c'est pour Ashkenazim. Sfaradim n'ont pas du tout besoin de jeûner. S'ils veulent, c'est bien. On conseille plutôt de faire une grande tchouva et faire un jeûne de la parole, en tout cas des paroles vaines.
Le jour même?
Le jour même du mariage. Si on se marie durant le jour, alors jusqu'au mariage. Si on se marie le soir, jusqu'à la sortie des étoiles.
On doit éviter pas mal de stress.
Maintenant, il y a des jours où on ne jeûne pas. Même si on se marie ce jour-là, alors bien sûr, le jour de fête, on ne se marie même pas, donc il n'y a pas de question, ni Shabbat. Quels sont les jours où on peut se marier et on ne jeûne pas? Rosh Chodesh, Tu Bishvat, Tu Be'av, le 15 du mois de Av. La Mishnah a dit qu'il n'y a pas de jour saint, de Yom Tov, de jour meilleur au peuple d'Israël, que Yom Kippourim et Tu Be'av, le 15 du mois de Av. C'est un très grand jour, il y a un très grand remontée de la Shrina ce jour-ci, donc c'est un jour qui est très saint, et on ne jeûne pas ce jour-ci, bien qu'il y ait beaucoup de mariages d'habitude dans cette période-là, du 15 au mois d'août, ici en Israël, c'est le bouchon des mariages, beaucoup de gens se marient. Oui?
Il y a quoi de particulier le 15 après?
Je t'ai dit, la vraie raison, au niveau mystique, montée de la Shrina, durant les trois semaines avant, donc tu as les trois semaines entre 17 Tammuz et le 9 Av, il y a une baisse de la Shrina, c'est terrible, c'est des jours qui sont mauvais pour Israël. Après ça remonte. Le jour où ça remonte vraiment haut, c'est... On espère que Mashiach viendra. Il viendra Pessah, c'est marqué, Hashem. Mais il y aura... La Gioula, c'est un tahalir, c'est un processus. Donc c'est certain que la date du 15 Av, j'imagine qu'elle est très propice, Bezrat Hashem. Ensuite, les dates où on ne jeûne pas, c'est Chanouka, Purim, Isru Chag, le lendemain d'un jour de fête, c'est pour ça Isru Chag, des trois régalim, des trois fêtes. Lag BaOmer et le mois de Nissan. Le mois de Nissan, d'habitude, on ne jeûne pas, ni Lag BaOmer, mais si c'est pour un mariage, oui, on pourra jeûner. On ne jeûne pas des jeûnes publics. On ne peut pas, par exemple, décréter un jeûne le mois de Nissan, ni le jour de Lag BaOmer. Un jeûne qu'on décrète pour une raison X, Y, Z, on ne peut pas jeûner. À part les cas extrêmes, Esther Amalka, dans la Megillat Esther, elle a décrété un jeûne de trois jours consécutifs qui tombait en plein Nissan pendant la fête de Pessah. Elle a aboli la fête de Pessah de façon ponctuelle parce que le peuple d'Israël allait être complètement éliminé par Haman. Mais à part les cas exceptionnels de ce genre-là, un rabbinat ne peut pas décréter un jeûne pour une communauté juive durant ces jours-là de Nissan et Lag BaOmer. Si c'est un jeûne privé pour quelqu'un qui se marie, ça sera permis durant ces dates-là. Le jour du mariage, le Khatan ne fait pas de vidouille. Donc après la prière, il y a un vidouille, Anna Hachem, etc. Ni lui, ni ceux qui prient avec lui. La question c'est, quand est-ce que ça commence? Alors il est évident que si il est déjà Khatan, on est après la Khoupa, que la Khoupa ait lieu le jour ou la nuit, on parle pour les prières du jour du lendemain, dans ce cas-là, dès qu'on a Khatan ici dans le Minyan, c'est certain qu'il n'y a plus de vidouille. Pendant les 7 jours, il n'y a pas de vidouille. Le Khatan, il s'est marié, pendant 7 jours, tous ceux qui prient avec lui, ni à Shachrit, ni à Mincha, on ne fait pas le vidouille. Avec un supplément, pour la suite des 7 jours, qui est intéressant, c'est que, au niveau des Sheva Brachot, pendant, il y a 7 jours de festin après qu'on se marie, on compte comment ces 7 jours? On compte le jour du mariage, compte le numéro 1. Donc s'il s'est marié, on va dire, par exemple, mardi. Alors on compte mardi, ses premiers jours, le dernier Sheva Brachot, il sera quand? Il sera lundi à midi. Parce que lundi soir, c'est déjà mardi, c'est le 8e jour. Donc lui, dès lundi midi, c'est fini, il ne peut plus faire Sheva Brachot. Par contre, mardi matin de la semaine d'après, il n'est plus dans Sheva Brachot. Mais est-ce qu'il est encore dans les 7 jours, dans les 7 fois 24 heures de son mariage? Oui, parce qu'il s'est marié mardi midi. Donc la prière de Shachrit, 7 jours plus tard, mardi matin, il est encore dans les 7 fois 24 heures de son mariage. Donc bien qu'on n'ait plus maintenant de l'échève à Brachot, lui maintenant c'est terminé, il ne fait plus l'échève à Brachot, etc. Néanmoins, le minyan qui prie avec lui pourra ne pas faire le vidou, devra ne pas faire le vidou. Donc ça c'est le après. Le jour du mariage, si il se marie la nuit, alors et à Mincha et à Shachrit, la veille du mariage, il fait le vidouille et tout le monde fait le vidouille. Lui aussi fait le vidouille. Si maintenant il se marie le jour, à Shachrit, c'est évident, il fait le vidouille. À Mincha, ça dépend. S'il fait Mincha juste avant la Khoupa, alors là, on pourra ne pas faire le vidouille. Mais s'il fait Mincha, on va dire, à 1h de l'après-midi, il se marie à 5h de l'après-midi, alors qu'il est encore jour, là, à Mincha, il fera aussi le vidouille. Seulement le Mincha qui est juste avant la Khoupa, alors là, on est déjà dans l'atmosphère du mariage, il y a déjà la Shrina qui a commencé à se préparer à venir, dans ce cas-là, on peut ne pas faire le vidouille. Shachrit, il devra le faire absolument. Comme on l'a dit, c'est un jour de tshuva. Tshuva non seulement des péchés qu'on a fait l'homme envers Dieu, mais surtout entre l'homme et l'homme. Il est facile de faire tshuva avec Dieu. Dieu, je reconnais, j'ai péché, je regrette, je prends sur moi. Mais la halakha dit que tant qu'on n'a pas fait, on n'a pas demandé pardon à quelqu'un, alors tu peux dire par exemple, Dieu, j'ai volé, je regrette beaucoup. Je parle à la shonara, je regrette beaucoup, ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'autre t'excuse. Donc il faut aller voir l'autre le jour du mariage, ou si possible la veille, avant, et s'excuser du mal qu'on aurait pu lui avoir fait durant notre vie, et il faut qu'il excuse. Et là, donc tshuva, après, elle est valable. Il y a même un avis, c'est le Rif, l'Halakha n'est pas comme ça, mais c'est un avis, Rabbi Yoshia Pinto, qui dit que tant qu'on n'a pas fait tshuva dans ce qu'il y a entre l'homme et son prochain, alors aussi au niveau des lois entre l'homme et Dieu, ce n'est pas expié. Et la chose, elle est logique. Parce que toi, tu dis à Dieu, j'ai péché, pardonne-moi. Ok, je vais le pardonner, mais montre-moi que tu vas dans mon sens. Moi, j'interdis de voler, j'interdis de faire la médisance, j'interdis de faire souffrir son prochain avec la parole. Et toi, tu fais tout ça. Alors, comment tu veux que je sois ok avec toi? T'es pas ok. Comment est-ce qu'on peut être ok? Dieu, je veux être ok avec toi, être ok à moitié. La halakha, oui. Si quelqu'un, il a fait, je sais pas moi, il a mangé du porc, il a fait tchouva là-dessus, et il a volé son prochain, il n'a pas fait tchouva là-dessus, il n'est pas allé rendre l'argent et demander des excuses, alors il est pardonné pour le porc, bien qu'il n'est pas pardonné pour le vol. Mais il y a des avis qui disent que tout est ensemble. Donc il est certain que le jour du mariage, on veut arriver propre, beau et propre, non seulement beau, mais propre surtout. Donc il faut aussi faire tchouva en ce qui concerne l'homme et son prochain. Cela concerne aussi les parents des mariés, parce qu'eux aussi, ils vont participer, comme on a dit, que les âmes des défunts viennent sous la choupa. Et c'est bien que tous ceux qui sont sous la choupa, toute la famille, soient propres ce jour du mariage. Donc c'est l'occasion de faire la soulha, d'accord, de faire la paix entre tous les clans et tout ce qu'il peut y avoir comme histoire.
Donc la journée, une journée seulement, ça ne suffit pas?
Non, c'est pas ce que je dis, qu'il faut commencer bien avant, s'il y a besoin, d'accord. C'est après qu'on a fait, une fois que quelqu'un, c'est bien que tu me parles de cela, une fois que quelqu'un a demandé pardon à son prochain, et son prochain a pardonné. Là, il faut aussi demander pardon à Dieu. J'ai volé quelqu'un. Alors je viens, je lui demande pardon, je t'ai volé. D'abord, il m'envoie balader. Je reviens deux, trois fois. Jusqu'à trois fois, il faut revenir. Mais pas évidemment en une minute, je reviens, je fais un petit tour et je reviens. Il faut essayer de passer une journée, revenir avec d'autres mots, essayer, amener des amis qui vont l'inciter à pardonner. À la fin, le type, il a pardonné. Ok, pardon, terminé. J'ai encore maintenant une dette par rapport à Dieu. Parce que lorsque je vole, je fais deux péchés. Envers mon prochain, mais aussi envers Dieu, qui a interdit de voler. Donc aussi faire tchouva par rapport à Dieu. Ok ?
Et pour les fautes qu'on a oubliées ? Parce que ça arrive, quoi.
Bien sûr. Alors on dit à Dieu, Dieu, tu sais, tu connais mes fautes, moi je ne les vois pas. Ce que je sais, je l'ai dit. Le reste, pardonne-moi et fais en sorte que ce soit expié. Évidemment, c'est marqué l'onitna Torah et Malachi Asharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges. On n'a pas un computer dans la tête de chaque bêtise qu'on aurait fait chaque minute. D'accord ? Si Dieu voit que tu es sincère pour les choses que tu sais déjà, alors minastam, on imagine que pour le reste aussi, il va aider. Le mikvé, Bechlal, de façon générale, il est extrêmement conseillé d'aller beaucoup au mikvé. C'est évident, c'est une pollution nocturne. C'est extrêmement conseillé pour les gens mariés quand ils ont une relation avec leur femme. Et c'est même conseillé d'y aller tous les jours, même pour rien. Conseillé. Évidemment, je répète et j'accentue et je souligne, que si ça ne touche pas les autres services divins que nous avons envers Dieu. Si quelqu'un maintenant il arrive en retard à la prière à cause du mikvé, mieux vaut qu'il n'arrive pas en retard à la prière. Si à cause du mikvé, il va arriver en retard au travail, il vole son employeur, alors il n'a rien fait du tout. Mais s'il peut se lever tôt et aller au mikvé sans toucher, sans faire une avéra, alors c'est une très, bien que ce n'est pas obligatoire, mais c'est une chose qui a une valeur énorme. Le Stapler a beaucoup conseillé cela. Le Stapler, c'était donc un ange qui a eu cette génération, le Rav Yaakov Israël Kanievski, le père de Rabbi Chaim Kanievski, qui est aujourd'hui un des plus grands rabbins du monde, un monsieur qui voyait des gens transparents, d'accord, énormes, il a beaucoup conseillé d'aller au mikvé, disant que ça amène la pureté pureté de la pensée et une grande lumière à la neshama. C'est certain que le Rabbi Shimon aussi disait, le Rabbi Shimon Bachoul disait, ce que peut faire le mikvé, aucune mitzvah ne peut faire. Les mitzvot font beaucoup, études de Torah, la tzedaka fait beaucoup, le mikvé, il fait des choses que ces mitzvot ne peuvent pas faire. Alors pourquoi c'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire. Certainement, le jour du mariage, il est extrêmement conseillé d'aller au mikvé. Le jour du mariage, pour arriver blanc, pur, à ce grand, grand jour. De même, donner la tzedaka. Cette zgoula, c'est une combine qui sert, Bezrat Hashem, le khatan donne la tzedaka, pour pas que sa femme fasse des fausses couches, et que pour les enfants, qu'il y ait des bonnes naissances, qu'il puisse avoir des enfants. De même que lui donne maintenant de la matière spirituelle, tzedaka, alors on donne, ça permettra aussi que lui, sa semence pourra donner aussi des fruits de valeur. Minag Ashkenaz, conseillé, mais non obligatoire pour les Sfaradim, qu'une semaine avant le mariage, le mari, le khatan, futur marié, et la future mariée, la kala, ne se voient pas. C'est bien pour plusieurs raisons. D'abord pour que, ça fait un peu drôle qu'on se fréquente beaucoup, un peu fréquente, quand j'ai fréquenté, bien sûr, sans se toucher. On se voit beaucoup, jusque une minute avant le mariage, après on va voir la kala. Ça manque un peu de nouveau. Or, on bénit le khatan. On dit, sa mère, tesama, reim, aouvim. Réjouis les amants qui s'aiment. Simcha, le mot simcha, il y a sept mots en hébreu pour dire la joie. Ditsa, gila, rina, chedva, Simcha, il en manque deux. Elson, ça sonne. Sept mots pour dire la joie en hébreu. En français, un mot. Et chacun a une connotation différente. Le Gaon de Vilna explique chacun des mots, qu'est-ce que ça signifie. Simcha, c'est une joie qui est procurée par la nouveauté. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, après il a amené la femme. S'il était né, il a vu la femme devant lui, bon, alors il voit le monde, tout est bien, je suis né dans un monde où il y a déjà des femmes, où déjà, il y a déjà une femme, je ne suis pas étonné. Il lui a fait chercher, il a dit, c'est pas bien que l'homme soit seul, il faut que j'amène une aide en face de lui. Verset juste d'après, Dieu amena tous les animaux au premier homme. Il n'a pas trouvé une aide contre lui. Hippopotame, pas très bien. Escargot, un peu lente. Kangourou, un peu trop... c'est stable, d'accord. Il trouverait rien. T'imagines la galère, aller voir tous les animaux en chidour. Vas-y, prépare-toi pour le chidour, qu'est-ce que je vais dire, comment je m'habille, etc. Bon, madame Kangourou, madame Hippopotame, il trouve pas. À la fin, il l'a amené, Chava. Ah. Si on avait amené le premier cours Chaval, ah oui, non mais, pas un peu, machin, je ne sais pas, j'ai des doutes. On l'a fait d'abord bien, si on pouvait faire nous aussi amener Madame Hippopotame ici à nos Bahourim, d'accord, et Kangourou, pendant un an toutes les semaines, après un an on l'amènerait vraiment la femme, aucun problème de chidour, ça irait beaucoup plus rapidement que ce que ça va. Alors Dieu il a fait ça. La nouveauté, la joie de nouveauté s'appelle Simcha. Donc il y a ici un aspect intéressant, ça vaut la peine, c'est pas obligatoire, je le répète, une semaine avant le mariage, je ne vais pas voir sa femme. Deuxième raison aussi, on est très amoureux et on risque de se toucher. Ou d'être en Ichoud, dans un endroit qui est fermé, ensemble. Or c'est très dommage, tellement peu de jours avant le mariage, de se planter aussi bêtement et aussi gravement.
Comme ça même avant la semaine.
C'est certain, mais on ne peut pas interdire les gens de se voir deux mois auparavant. D'accord ? L'axe est tellement proche du but. Et il y a tellement l'amour, il va en grandissant, etc. Alors c'est bien pour qu'il n'y ait pas d'accident de ce type-là, de les séparer. Ok, je crois qu'on a fini en ce qui concerne l'avant-mariage. On va passer maintenant à deuxième étape.
Au téléphone.
Au téléphone, pas le problème de... Ah, il y en a qui font attention de ne pas parler au téléphone aussi. C'est une khumra dans la khumra. Mais il y en a qui le font ainsi, c'est juste. C'est pas si grave. Ma fille qui s'est mariée il y a un mois, alors ils ont fait aussi, ils n'ont pas parlé au téléphone. Puis un jour elle a appelé parce qu'elle devait parler avec sa future belle-mère, elle est tombée sur son khatan. Alors, elle dit non, attends. Elle voulait lui parler, ils ont parlé une minute. Elle était heureuse pendant toute une soirée, elle était heureuse qu'elle a eu une minute son khatan au téléphone. Donc, c'est pas si grave, d'accord, c'est comme un minhag, qu'une coutume pour, comme je dis, qu'il y ait plus de nouveautés, plus de joie dans la réunion après des deux mariés. Ok, on passe maintenant à deuxième étape, les kiddushin. On fait les kiddushin. Kiddushin, c'est donc en fait l'acte proprement dit qui va lier l'homme et la femme par le don de la bague. La femme devient femme du monsieur et le monsieur devient le mari. C'est pas encore le mariage, c'est le fait qu'il y ait ici une liaison entre les deux. C'est ça kiddushin, une consécration. La coutume, et comme ça il faut faire, est qu'on fait cette consécration sous une roupa, sous un dé nuptial. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, Chazal ont interdit de faire des kiddushin, de marier une femme dans le marché, dans la rue. Pour pas que les gens croient qu'on est comme ça, on a rencontré, hop, tu me plais, allez, soit il prend une bague, tu es ma femme, tac, il lui met comme ça, ça c'est interdit. Alors on fait un espace spécial, c'est pas dans le marché, on n'est pas ici dans la rue, on est ici sous la choupa, un endroit qui est fermé comme il faut. Deuxième raison, comme je dis, la shrina va venir et les âmes des défunts vont venir. Donc il faut qu'il y ait un endroit qui soit délimité. Et on apprend beaucoup de lois du mariage, du mariage qu'il y a eu entre Dieu et Am Israël. Quand au matin de Torah, au don de la Torah, au don de la Torah, il y a une sorte de mariage, de consécration. Dieu nous a consacrés. Vitemli Kedoshim, vous me serez consacré. Vavdi et Treminamim Lyotli, dans le même verset, je vous ai différencié des autres peuples pour que vous m'apparteniez à moi. Ce qu'on fait avec une femme quand on la marie, on la consacre, Atme Kudeshetli, Kedoshim, Kadosh, une fille saint, sacré, tu m'es consacré, tu m'appartiens, tu es différente des autres. Les autres, ce n'est pas ma femme, toi tu es ma femme, et tu es interdite aux autres. La même action qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est en fait ce qu'il y a eu entre Dieu, qui est en quelque part l'homme, le Khatan, et Am Israël, qui est la Kala. Or, au Mont Sinaï, Dieu a pris le Mont Sinaï et l'a mis sur le peuple d'Israël. Il y a une sorte de dénuptial. Donc on apprend aussi qu'il est nécessaire qu'il y ait un dénuptial du Matan Torah, du don de la Torah au Mont Sinaï. On apprend encore d'un verset, Ruth à Moavite, elle vient voir Boaz, et Boaz est prêt à la marier. Alors elle le remercie, elle lui dit, je te remercie, chez Parasta Knafecha Alamatecha, tu as étendu ton aile sur ta servante. Comme ça, elle dit à Boaz, tu as étendu ton aile sur ta servante. Donc on va étendre quelque chose sur, on va étendre quelque chose sur le Khatan et sur la Kala. Donc on ne fait pas les kiddushin n'importe où, il faut que ce soit un endroit délimité, comme je dis, le dé nuptial. Minhag Ashkenaz, de nouveau, ça ne nous concerne pas, mais ceux qui veulent peuvent le faire, en été, en hiver, c'est déconseillé, c'est de faire la choupa dehors. Le dé nuptial dehors. Pourquoi ? C'est important qu'on voie les étoiles, même s'il fait nuageux, qu'on pourrait les voir de façon potentielle. C'est marqué, ils disent, c'est une sgoula, comme c'est marqué dans les Rishonim, une sgoula, une combine pour avoir des enfants qui vont éclairer comme les étoiles. Bezrat Hashem. Alors comment ça se passe, les Kiddushin ? Le mari, le futur mari, le Khatan, on l'appellera, et la Kala viennent séparément, et non ensemble dans la voiture, au mariage. La Kala, elle s'installe sur une sorte de chaise, et toutes les femmes viennent, lui parlent, etc. Elle prie. Aujourd'hui, qu'on avait expliqué la dernière fois qu'on a une grande capacité de prière ce jour-là, et le Khatan et la Kala, elle prie pour elle-même, pour sa famille, pour tous les proches. Et lorsque le moment est venu, le papa du Khatan et le papa de la Kala, et là qui font ça autrement, c'est le père et la mère du Khatan, mais le minhag le plus normal, c'est les deux pères, prennent à droite et à gauche le Khatan par le coude, et ils vont aller vers la Kala. De même que Dieu est venu vers et à Israël au mont Sinaï. Hachem, c'est Dieu qui vient vers Am Israël au mont Sinaï. Juste auparavant, il est bien, c'est un minhag pour les Sfaradim aussi, Ashkenazim le font, mais les Sfaradim aussi doivent le faire, de se rappeler, c'est marqué, un verset qu'on dira durant la Choupa, c'est marqué dans Tehilim 137, « Im eshkachach Yerushalayim, si je t'oublie Yerushalayim, tishkach yemini, que ma droite s'oublie, tidbak leshonel hiki, que se colle mon palais, ma langue à mon palais, imno ezkerechi, si je ne me rappelle pas de toi, imno aale et Yerushalayim, alorosh simchati, si je ne monte pas Jérusalem au sommet de ma joie. » On se rappelle que nous sommes en exil, Jérusalem est détruite, c'est-à-dire l'endroit du temple, nous sommes en exil, le temple est détruit, la shrina, la présence de Dieu est en exil, le peuple d'Israël souffre, et on se souvient de cela même au sommet de notre joie. Le sommet de notre joie, c'est quand ? Le jour du mariage. Avant d'aller accueillir, voir la Kala, on mettra sur le front du Khatan, selon l'endroit des tefilines, un peu de cendre. On prend de cendre, ou un peu de cendre de cigarette, ou une allumette qu'on a écrasée, le noir, d'accord, un peu de cendre, on le met ici à la place des tefilines. Les tefilines sont appelées PR. PR, c'est splendide, splendeur. La cendre est appelée en hébreu FR. FR, c'est les mêmes lettres, mais inversées. PR, FR, dans un ordre différent. Comme c'est marqué, FR, Tahat, PR. On met de la cendre à la place du PR, à la place des tefilines. À la place de la splendeur, pour dire qu'on est, quelle splendeur, nos temples sont détruits, nos splendeurs est partie. Donc même au sommet de notre joie, on va se rappeler aussi que nous sommes encore en exil, on met un peu de cendre ici sur la tête du Khatan, et après on en enlève comme ça, pour qu'il ait, qu'il vienne propre le jour de son mariage, et il va venir accueillir la Kala. Il est impératif, on verra, que l'acte de Kiddushin n'est valable que s'il y a deux témoins kasher. On parlera exactement qui, quoi est kasher. Les deux témoins doivent voir la Kala. Or, il y a des coutumes, ça dépend qui, quoi, des communautés juives, dans lesquelles la Kala, elle met une sorte de tulle, d'accord, sur son visage, on ne la voit plus. Il y en a que c'est transparent, c'est pour la rendre un peu moins moche, parce que le tulle, ça rend elle la plus belle dessous. Puis il y en a que c'est vraiment pour, au contraire, pour pas qu'on voit qu'elle est belle, pour des raisons de pudeur, alors elle met un tulle et on ne voit rien du tout. Il est impératif que les deux témoins voient qui est la Kala, au moins eux. Donc, le Khatan va aller maintenant, il s'approche d'elle et lui descend le rideau, le tulle, d'accord, le voile sur son visage. Auparavant, il faut qu'il y ait derrière le Khatan, il y a les deux édimes, ceux qui sont les deux témoins du mariage, doivent regarder maintenant et voir effectivement que c'est bien elle qu'on va amener après sous la roupa, pas une autre.
Il va la toucher le Khatan.
À ce moment, il vient, il ne la touche pas, il touche juste le rideau, il met comme ça. Il met le rideau,
le voile.
Le voile. Il lui met le voile, il n'y a aucun problème. Il lui met le voile, il n'y a aucun problème. Si jamais les deux témoins n'ont pas vu la Kala, alors sous la choupa, il faudra un moment, quand elle boit le vin ou quelque chose, que lorsqu'on soulève, hop, tu vois que c'est bien elle. Alors ça vaut la peine dans tous les cas, lorsqu'elle va boire après sous la choupa, que les deux témoins regardent que c'est bien elle, parce que C'est vrai qu'on lui a mis maintenant le voile, d'accord ? Donc c'est elle qui va venir maintenant, on voit bien de quelle femme il s'agit. Peut-être qu'en route, on a mis une autre à la place, déguisée comme la Kala, aussi, avec le même voile. Hein ? On a eu ce cas, quand ? Yaakov et Léa. On a mis Léa à la place de Rachel. Donc pour être vraiment certain que c'est elle qu'on n'a pas mis une autre à la place, il faudra, auparavant, quand même qu'elle se dévoile un tout petit peu. Lorsqu'elle boira le vin, ce sera la bonne occasion de voir que c'est bien elle. C'est un minag plutôt ashkenaz, c'est juste. Mais des fois, pour des raisons de tzniut ou de pudeur, il y a des femmes sarades aussi qui veulent vraiment être... Tout le monde regarde la kala, c'est normal. On veut la voir, on veut la voir. C'est pas très très pudique. Alors ça dépend des minagim, chacun fera comme bon lui semble. Au niveau de ce voile que met le khatan à la kala, il y a une grande... On verra, je vous expliquer qu'il y a l'avant-mariage, les kiddushin, la ktouba et le mariage lui-même, les nisouin. Nisouin, on fait 7 brachot pour quoi ? On dit que la kala vient dans le domaine du khatan. On a expliqué qu'à l'époque, il y avait les kiddushin, on mettait la bague, la femme repartait 6 mois ou 1 an chez son père, et après, quand elle venait chez son père, c'était les nisouin, c'était le vrai mariage. Aujourd'hui, on fait les deux ensemble. On sépare juste par la ktouba. Alors, quel est en fait l'acte qui montre que la femme vient dans le domaine du mari ? On appelle ça la choupa, kinyan choupa, le kinyan, l'acquisition au niveau de la choupa, le mariage. Et le premier qui est kiddushin, ça c'est le kiddushin. Mais après, il y avait une autre chose qui était nisouin. Le nisouin, il est quand ? Machloket, c'est une discussion entre les grands rabbins d'il y a 1000 ans environ, les rishonim. Un avis dit, c'est lorsqu'on fait le sheva brachot sous la choupa. Le fait qu'ils lui mettent le talit, on met le talit, elle est sous le talit maintenant, on fait Sheva Brachot, ça c'est la choupa. Il y a un autre avis qui dit, c'est après la choupa, ils vont dans une chambre les deux fermées, on appelle ça Cheder et Choud. Le fait qu'ils sont fermés les deux dans une chambre, c'est, voilà, elle est venue chez lui, c'est son domaine, il peut l'embrasser, il peut faire ce qu'il veut là-bas, c'est déjà sa femme. Il y a un troisième avis qui dit, c'est lorsqu'il lui met le voile. Lorsqu'il met le voile à sa femme, là c'est Nisouin. Comme ça, disent Ashkenazim, Rashi et les Ashkenazim, ils vont d'après ce dernier avis, qui dit que lorsqu'on met le voile à la femme, c'est là qu'a lieu le Nisouin. Mais il y a un problème, c'est que tu ne peux pas avoir Nisouin sans qu'il y ait eu Kiddushin. On est encore avant qu'il ait mis la bague. La bague, c'est Kiddushin. Et seulement après qu'il y a Kiddushin, il peut y avoir Nisouin. Comment se fait-il, lorsqu'on lui met déjà le voile, il y a déjà Nisouin alors qu'il n'y a pas encore eu Kiddushin. Alors ils disent, non, le Nisouin aura lieu plus tard. Mais comment on fait ? On lui met maintenant le voile, et le khatan et la kala pensent qu'en mettant le voile maintenant, c'est un nisouin potentiel en quelque sorte. C'est un nisouin qui est là, et qui aura lieu réellement lorsqu'il mettra la bague. Lorsqu'il mettra la bague, il y aura les kiddushin, alors rétroactivement a lieu immédiatement ici le nisouin aussi. C'est un peu compliqué. Ceux qui le font vraiment très bien, nos frères Ashkenaz, il faudra qu'ils pensent cela, que le khatan et la kala pensent que lorsqu'il met le voile à la femme, à ce moment-là, alors, a lieu un nisouin qui sera effectif rétroactivement lorsqu'on mettra la bague, il y aura les kiddushim. Nous, les Sfaradim, on va de près le premier avis qui dit que lorsqu'on met le talit sur la femme, on fait les sheva brachot, là a lieu les nisouin. Encore un troisième avis qui dit que c'est le yichud. Là, l'acha, c'est une machloket. Donc, on pensera que la vérité sera le bon avis. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas le Khadir Ikhoud. Le Minhag des Sfaradim ne fait pas faire de Khadir Ikhoud, de chambre dans laquelle les deux sont seuls. S'ils veulent faire, ils peuvent faire. Mais le Minhag n'est pas de faire ainsi. La coutume n'est pas de faire ainsi chez les Sfaradim. Ok. Donc maintenant, on est à l'étape où il a mis le voile. Lui, il repart maintenant et va aller sous le dénuptial. Tout ça, c'est hors du dénuptial. C'est l'endroit où elle est posée sur sa chaise. Chez les femmes. Lui repart avec les deux témoins, avec les deux papas. Tout le monde va maintenant sous le dénuptial. Les hommes sont là. En tant que la femme arrive, elle arrive. Comme Dieu aussi a amené Chava vers l'homme. Dieu a amené l'homme vers Chava et a amené Chava vers l'homme. Alors ça va dans les deux sens. Chava, Ève, Dieu l'a amené vers l'homme. Maintenant on amène la femme qui vient vers l'homme qui attend sous le dénuptial. Et on l'installe où, la femme ? À droite ou à gauche de l'homme ? Discussion. Le minag est comme ça à l'acha, on met à droite. On a un verset, Nitzvah Shegal Liminecha. Elle était la femme à ta droite. Rabbi Noari dit, ça c'est valable avant que le temple soit détruit. Depuis que le temple est détruit, la femme doit être à gauche et pas à droite. Néanmoins, la coutume n'est pas comme Rabbi Noari. Et tout le monde, tout ce que j'ai vu de tout temps, et comme ça, et le Minhag, la coutume, c'est qu'on met la femme à droite du Khatan. Minag des Ashkenazim, plusieurs minagim. Ça ne nous concerne pas, mais il faut savoir si on est beau minagim. Si quelqu'un veut les prendre, il peut le faire. D'abord qu'en route, lorsque viennent Ratanakala, on leur lance du blé dessus. Pourquoi du blé? Alors on a un verset qui nous dit, on dit ça tous les matins, Assam Gvouler Shalom, il met ta Gvouler, ta frontière, donc ton domaine, Shalom en paix, Halev Hetim Yasbier, il te rassasie de blé, du blé. Le blé, c'est l'argent. De là, on dit Chazal dans Baba Metzia, le début d'une bagarre entre un homme et une femme, Shalom Bait, vient pour l'histoire d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, il y a de la pression. Quand il y a de la pression, c'est qu'on va crier sur son conjoint. Donc pour assurer le Shalom Bait, c'est bien qu'au niveau de l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, ni le Shalom Bait. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, ça crée un terrain houleux, miné. C'est dangereux. Facilement, ça peut faire boum. Quand au moins au niveau de l'argent, ça va, alors au niveau de la pression, il y a moins de pression, c'est plus facile d'établir une relation de Shalom Bait. Donc on leur lance du blé pour qu'après ils aient du blé, Bezrat Hashem. Non, pas qu'ils aient du blé, qu'ils aient du shalom, Bezrat Hashem. D'accord? On lance du blé parce que ce verset nous dit donc, Assam Gvouler Shalom, tu vas avoir maintenant de la paix dans la maison, alors tu as du blé, on lance du blé. Deuxième coutume ashkenaz aussi, c'est que les deux papas et les deux mamans, la femme vient avec les deux mamans qui la tiennent par les coudes aussi, ils vont avec des bougies dans les mains. Une bougie, un papa, une bougie, un autre papa, une bougie, une maman, une bougie, la deuxième maman. Pourquoi des bougies? Alors c'est très joli, c'est romantique, mais à part cela, il y a aussi des raisons qui ont été données. D'abord, comme on a dit, matin de Torah. Au don de la Torah, il y a eu des lumières. Alors là aussi, on amène des lumières. Il y avait des lapidim, c'est marqué, des sortes de torches. La Torah dit qu'il y avait des torches. Donc on vient aussi avec des torches, des bougies. Deuxième explication, ner, bougie, valeur numérique 250. L'homme, il a 248 organes par rapport à 248 mitzvot positifs. La femme n'a pas la même anatomie que l'homme, elle a 252 organes. 248, 252, combien ça fait? 500. 500, c'est nerf bougie plus nerf bougie. Chaque nerf, chaque bougie vaut 250, les deux, ça fait 500. Donc pour montrer qu'on a une union maintenant entre l'homme et la femme, alors on a deux bougies aussi. De même, nerf et nerf, les valeurs numériques de nerf, 250 plus 250, ça fait 500, même valeur numérique que Peru Urvu, la mitzvah que vont faire maintenant le Hatan Lakala, mitzvah de la première mitzvah qui est marquée dans la Torah, de se fructifier, se multiplier. La première mitzvah qui a reçu l'homme sur Terre. C'est valeur numérique 500. Donc on met des bougies ici pour rappeler cela. Tov. La femme arrive chez l'homme sous la choupa. Minag Ashkenaz de nouveau, ça ne nous concerne pas, mais c'est un beau minag aussi, que la femme va faire 7 tours autour du Khatan. Pourquoi 7? Pour explication. La vraie explication, c'est après la mystique juive. Il y a 7 lumières qui entourent l'homme par rapport aux 7 sphères. Alors elle entoure l'homme avec ses 7. C'est marqué Nekeva Tesovev Gever. Une femme, elle entoure l'homme. C'est marqué que dans l'Amaba, la femme, les hommes, les tzadikim sont dans l'Amaba, et Atarotarem Berachem, leur couronne sur la tête, leur couronne c'est leur femme. Ils ont une couronne de lumière autour, c'est la femme. On a tous lumière, d'accord, au l'Amaba. La femme, elle entoure l'homme. Donc là aussi, elle se met à l'entourer. C'est des considérations mystiques très haut niveau de cette histoire-là de tourner autour. Deuxième raison qui sont données aussi par les commentateurs, beaucoup plus simple, d'après le sens simple, le Khatan, il est comme un roi, et un roi est entouré de ses armées. Ça revient au même, c'est la même explication, mais donnée de façon plus terre à terre. Encore une autre raison, il est marqué que l'homme qui est sans femme, alors il est sans bracha, sans bénédiction, sans Torah, sans simcha, sans joie, sans choma, sans muraille. La femme, elle aide après l'homme et à le maintenir bien, il est sans muraille. Maintenant que la femme vient, elle fait déjà 7 murailles autour de lui. Qu'il a une muraille maintenant autour de lui. Et pendant ce temps, le Khatan est pris, et la Kala est pris, et les femmes, elles pleurent, c'est très très romantique. Et là, la femme s'arrête à droite du Khatan. Tout ça, c'était maintenant les fioritures, d'accord? L'essentiel commence maintenant, les Kiddushin. Mais le temps était déjà passé, donc on passera aux Kiddushin la fois prochaine. Baruch Adonai, l'Amen, l'Amen.